Bonjour mes bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices qui m'écoutez encore aujourd'hui, que la paix de notre Seigneur soit sur vous tous, soit sur nous tous et son esprit aussi. Nous allons commencer aujourd'hui le premier message de la série intitulée « Élargis l'espace de ta tente », qui va nous conduire, comme je vous l'ai expliqué dans le message d'introduction, qui va nous conduire dans l'étude des 17 versets du chapitre 54 du livre du prophète Ésaïe de la Sainte Bible. Ceci pour répondre aux instructions divines que l'Éternel donne à son peuple en cette décade. Nous allons prier pour remettre ce temps à l'Éternel, parce que toute chose lui appartient. Père éternel, Dieu de gloire, toi qui es le puissant, toi qui es le mighty God, je te salue, ô Père. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, pour tous tes bienfaits. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui avais disposé ce temps, Seigneur, avant même que moi-même je n'y pense. Ô Dieu de gloire, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que je me tienne encore devant ta face aujourd'hui en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, Père éternel, parce que rien ne se passe si ce n'est ta volonté. Éternel Dieu de gloire, Papa, merci encore. Merci, Seigneur, de me donner l'opportunité encore aujourd'hui d'être un vase. Un vase, Seigneur, pour que ton esprit puisse communiquer, Seigneur, à ton peuple. Ô Seigneur, je me consacre à toi entièrement. Saint-Esprit de Dieu, viens, emplis tout. Occupe tout, occupe ton temple. Et fais de ce moment un moment de vie. Parle par ma bouche, toi-même. Transmets ce message. Au peuple de Dieu, transmets ce message à tous ceux qui l'écoutent, qui l'écouteront. Que ce message soit empreint de vie en Jésus-Christ, mon Seigneur. Qu'il puisse porter la vie en chacun qui l'écoute. Saint-Esprit de Dieu, agis. Par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Par moi-même, je ne suis rien. Toi seul peux faire toutes choses. Car ce n'est ni notre force, ni aucune puissance. C'est ton, c'est l'Esprit de Dieu. Nous dit l'Éternel, qui œuvre en toutes choses. Merci Saint-Esprit, merci mon ami, pour ta présence. Je me soumets complètement à toi. Agis, utilise le temple que je suis et communique. Glorifie Jésus, que toute la gloire de ce moment revienne à l'Éternel Dieu notre Père. Et en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi, que j'ai ainsi prié. Amen. Je veux vous inviter d'abord à prendre connaissance du texte que nous allons étudier. Donc nous allons le lire. Mais pendant que nous allons le lire, nous allons répartir. Je vous expliquais dans le message d'introduction que c'est un texte dont, au cours de l'étude, j'ai réparti en 6 parties, 7 même, avec une dernière partie qui est une phase pratique. Donc, pendant que nous prenons connaissance de ce texte pour nous en imprégner, nous allons redéfinir ces différentes parties. Voilà, avant de commencer le message proprement dit. Il m'apparaît, je veux le définir comme ça, il m'a paru important et à la nécessité par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la lettre tue, et c'est l'esprit qui vivifie toutes choses. Donc, on va dire, c'est pour parler de la loi et pour parler de l'esprit de vie. Je dis oui. Mais c'est aussi pour parler du logos, du texte même, des mots, de ce que nous semblons comprendre des mots qui sont écrits. Nous savons que nous lisons, en fonction des différents pays, nous lisons des traductions des saintes écritures de base. Et les textes sont traduits dans les différents langages, notamment en français. Les textes sont traduits avec les mots et la compréhension et même la culture du territoire dans lequel il est traduit. Et très souvent, ça s'écarte un peu, ou plutôt, ça ne laisse pas la dimension profonde même de la pensée de Dieu dans l'écriture de base, dans l'écriture textuelle. Vous savez que du temps de Jésus, la parole nous dit, les écrits nous disent qu'il s'exprimait en araméen. Du temps de qui s'exprimait parfois en araméen, du temps de Moïse et tout, il s'exprimait toujours en araméen, il écrivait en langage hébreu, du temps de Jésus, du temps de Rome, on écrivait en grec, que la plupart des évangiles sont écrits en grec et que les épîtres de Paul, de Pierre et des autres sont écrits en grec parce que c'était le langage d'expression de l'époque. Donc il est parfois important, il est important de chercher à comprendre vraiment la profondeur, la quintessence de la signification des mots en repartant regarder sur les versions de base et la traduction que ça peut nous donner, la signification des mots véritablement pour prendre la profondeur, pour prendre toute la dimension, toute la lumière de l'expression de la parole de Dieu. Ne pas s'arrêter à un premier niveau. Même les chercheurs dans la pédagogie et autres, on nous explique que la façon dont fonctionne notre cerveau, la façon dont se déploie la connaissance, un même mot, une même parole se décline en 7 niveaux de compréhension. Et moi, je dis encore, pourquoi 7 niveaux de compréhension? Moi, je pense que ça se décline en près de 7 niveaux de compréhension parce que ça suit un peu le mouvement de l'Esprit de Dieu. Nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection avec notre Seigneur. Mais c'est aussi la perfection parce que ça se décline sur les courants de l'arc-en-ciel, sur les 7 niveaux de manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous avons vu dans Révélation, dans Apocalypse, qu'on nous dit que les 7 chandeliers, c'est les 7 esprits de Dieu. Il y a 7 esprits en Dieu qui se meurent en esprit. Donc, sous le regard de chaque esprit, de chaque manifestation, il y a une façon de comprendre la parole de Dieu. Mais il y a aussi la traduction simple du mot. Et moi, pendant ce travail, j'ai pu constater à quel point les traductions, entre la traduction du Larousse, du dictionnaire, c'est-à-dire la traduction française courante, puisque nous les lisons en français, je parie que c'est aussi ça en anglais ou, je ne sais pas, moi en tchèque, pouvaient s'écarter. Ce n'est pas que c'est faux ou non, mais la traduction, l'expression même du mot en hébreu ou en grec, dans le contexte même de l'écriture, des écritures bibliques, pouvait être complètement différent, pouvait être complètement, même souvent en opposition par rapport à ce que nous lisons là en français. Ce n'est pas que c'est traduit faussement, non, mais c'est que ça nous donne une dimension, un autre stade de compréhension des mots. Donc il m'a semblé important de préciser cela, parce que c'est sous ce processus que nous allons travailler, que nous allons aller chercher au-delà de ce qui est écrit, nous allons aller chercher une compréhension, une lumière, nous allons chercher la quintessence du texte lui-même, parce que nous allons solliciter comme ça, et l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre encore vraiment la pensée de Dieu. Moi, je disais dans la première partie de l'introduction, que j'étais arrivée à ça parce que pendant longtemps j'ai prié et j'ai vraiment cherché la face de Dieu, sollicité l'Esprit pour qu'il m'éclaire. Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie le Consolateur. Lui, il va vous enseigner, il va vous faire discerner le bien du mal, il va vous équiper, il va vous éclairer, il va vous donner de l'intelligence, il va vous communiquer l'intelligence de ma pensée, il va vous rendre sage. Toutes ces choses-là. Et j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, moi je le désire parce que je veux vraiment que la parole se fasse chair en moi. Et véritablement dans le processus de mon travail spirituel, il m'a donné une méthode de travail. Et depuis que je mets cette méthode de travail en pratique, oh, il m'éclaire. Parce que l'Éternel Dieu m'avait dit, tu mets cette méthode en pratique et moi je vais te révéler ma pensée. Et vraiment, c'est dans ce processus que nous allons avancer. Et ne vous étonnez pas qu'au fur et à mesure, je m'attarde sur des mots pour que nous allons chercher plus loin ce que ça peut vouloir dire, pour que l'Esprit de Dieu lui-même porte cela dans nos vies, porte cela dans nos cœurs. Et nous verrons que nous avons un éclairage qui est différent. Nous ne restons pas superficiels, soyons plus profonds, parce que l'Éternel, notre Dieu, nous dit que lui, il attend des adorateurs qui sont en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Parce que nous n'avons pas nos conformer aux choses juste superficielles, aux choses physiques ou matérielles, de ce que nous pensons, de ce que ce monde nous a enseigné. Non. Nous devons chercher dans sa profondeur à lui, pas ce que nous croyons avoir compris, mais ce que lui, il veut dire. Ça, c'est ce que nous devons aller chercher. Et il dit en vérité, parce que la vérité est dans sa parole, la vérité est dans ses écrits. Oui, donc nous allons rester dans ces deux volets pour essayer de comprendre ce que l'Écriture de Dieu nous dit, ce que sa parole nous dit, ce qu'il nous révèle et ce qu'il veut que nous fassions, comment il veut que nous comprenions les choses et ce qu'il veut que nous mettions en action. Voilà, donc ça va être la possibilité pratique. Pourquoi cela? Parce que je me dis, quand nous lisons la parole, les versets sont pleins de promesses, les versets sont beaux. Quand il nous dit « élargis l'espace de ta tente », si je reste sur le niveau de l'espace de ta tente, de la tente, et que je crois comprendre, parce que tout le monde peut dire « oui, mais ça veut dire agrandis ta maison, non ?» Oui, mais si je m'arrête à ça, j'ai compris quoi? Qu'est-ce que je vais devoir faire en réalité? Parce que l'Éternel me donne un ordre. J'ai compris quoi? Rien. Parce qu'il faut que j'aille au-delà, que je comprenne dans des niveaux plus profonds pour transformer ça en pratique, en des actions pratiques que je vais accomplir moi-même. Parce qu'il s'agit d'un accomplissement, il s'agit de passer à l'action par rapport à quelque chose. Parce que tout ce que nous faisons, nous méditons, nous lisons, nous comprenons, nous prions, mais après il faut passer à l'action, il faut agir. Et généralement, c'est pour ça qu'il dit, ceux qui entendent ma parole, ils obéissent, ils observent, ils mettent en pratique. Comment est-ce que je vais mettre en pratique? Comment? Si je n'ai pas compris, mes frères, mes sœurs, prenons la peine d'aller un peu au fond des choses. Et c'est le désir que j'ai en moi, après ce travail, de partager cela avec vous. Donc, nous allons lire les 17 versets de chapitre 54, et nous allons le répartir, ça va nous servir un peu pour planter le décor de la suite de nos enseignements. L'Éternel dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est le chapitre 1. Ça, c'est le verset 1, autant pour moi. Au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Wow. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ça, c'est un ordre. Moi, j'ai appelé ça l'instruction principale. C'est ce que j'ai reçu. Élargis l'espace de ta tente. Rose. Oh. Quand je vais pour regarder le passage, élargis l'espace de ta tente. Et j'ai lu qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est un tout. C'est un même verset. Et les différents mots. Élargis l'espace de ta tente. C'est point virgule. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Deux points. Ne retiens pas. Point d'exclamation. Allonge tes cordages. Virgule. Et affermis tes pieux. Point d'exclamation. Il n'y a pas de point entre tous ces points-là. Parce que le point, ça veut dire point final. J'ai fini avec une pensée. Donc, tout le verset 2, avec toutes ces instructions-là, font partie d'une même instruction. Alléluia. D'une même instruction. Parce que même au verset 3, il continue, car c'est toujours un prolongement du verset 2. Et ça, c'est le verset 2, c'est les instructions de Dieu, les ordres de Dieu, les actions à opérer. C'est ce qu'il instruit que l'on fasse. Mais avant ça, il l'a précédé du verset 1. Où il donne une recommandation importante qui est se réjouir. Donc, moi j'ai appelé le verset 1 les recommandations de l'Éternel. Le verset 2, les instructions divines, les ordres de Dieu, et qui sont pour nous des défis à relever. Verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera les îles désertes. Oh là là. Moi j'ai appelé ça les engagements de Dieu. Les promesses de Dieu. Il dit au verset 2, tu feras ceci, tu feras ceci. Non, il dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela. Car moi, je promets que ça va conduire à ceci, ceci, ceci et cela. Ça, ce sont des promesses fermes. Dans le verset 3, ce sont les promesses de Dieu, les engagements de Dieu. Continuons. Le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Oh, tu as bien vu, papa. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Ah, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Alléluia. 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 Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ouh. Moi, j'ai appelé ça l'assurance de la restauration. Dieu nous assure de sa restauration. Du verset 4 au verset 10, nous l'étudierons. Alléluia. Nous continuons. L'Éternel poursuit, et il dit, « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, oh, j'aime ce mot, voici. Voici, je garnirai les pierres d'antimoine. Je garnirai tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Moi, j'ai appelé ça les actions de Dieu, son mode opératoire. Dieu va jusqu'à nous décortiquer comment il va procéder pour pouvoir nous mettre au large. Si nous obéissons aux instructions qu'il nous a données, au verset 2, il dit « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, affermis tes pieux, parce que je veux faire des choses, parce que je désire pour toi des choses. Et voilà les actions que moi je vais mener pour te garantir tout ça. » Nous étudierons ces mots d'opératoire divin. Parce qu'il est important aussi pour chacun de comprendre aussi ces choses pour ne pas passer à côté. Parce que quand Dieu veut procéder d'une certaine façon et qu'on est ignorant, on peut ne même pas voir et passer à côté d'une grâce, d'une disposition, d'un processus, d'un procédé qu'il est en train de mettre à notre disposition, qu'il est en train d'acter pour que nous puissions impacter. C'est important d'aller comprendre. Pour être à la veille. Et il conclut. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Oh. Tu seras affermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, j'ai appelé ça l'héritage du serviteur. L'héritage du serviteur, pourquoi? Pas l'héritage de l'enfant de Dieu. L'héritage du serviteur, nous comprendrons la nuance quand nous arriverons à ce niveau. Parce que je me suis interrogée, parce que la première position, c'est la position, oui, de fils en tant que tel. Oui, mais ça, c'est une nuance. Et ça, les formes de l'esprit dans lequel il se meut. Le Seigneur dit ici que je récompense, que je pose ce lot au serviteur. Donc, moi, j'ai compris en fait que quand l'Éternel te dit d'élargir l'espace de ta tente, d'affermir tes pieux, de faire des actions, il te pousse dans le sens du service. Même en tant que fils, en tant que ministre, en tant que prince, il te pousse dans le sens d'un service adéquat, adapté, établi par lui, ce qu'il te demande de faire. Il y a quelque chose là. Et rentrer en possession de cet esprit. Alléluia. Nous l'étudierons à ce moment-là. Et j'ai introduit une dernière partie, la septième partie, qui est la mise en pratique de certaines des recommandations. Il y en a qui nécessitent d'être comprises, qui nécessitent que des prières, mais il y en a qui nécessitent des actions. Parce que dans tout ce processus avec l'Éternel, il y a ce que nous devons faire nous-mêmes, et il y a la part à lui, et il y a la part de nous-mêmes. Et dans la part de nous-mêmes, nous devons rentrer en action. Mais il faut avoir le process pratique, il faut avoir cherché, compris le procédé pratique pour pouvoir. Et ça, ça se rattache à... Voilà, nous sommes dans le monde, nous sommes, même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Ça s'articule autour des règles de vie, des lois des pays dans lesquels nous sommes, des modalités pratiques pour faire ci ou pour faire ça. Et il vaut mieux les connaître pour pouvoir mettre les choses en pratique devant l'Éternel, agir de notre part pour que l'Éternel fasse sa part. Donc, nous étudierons certains cas comme ça où l'Esprit m'a inspiré. Voilà, les 7 parties que nous allons étudier. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre premier message qui est le verset 1, la recommandation de l'Éternel. Dieu nous donne une recommandation au verset 1. Une recommandation fondamentale. Et il nous a donné une instruction principale qui est au verset 2. Mais il a anticipé par une recommandation, et c'est important de voir ça de cette façon. L'Éternel dit, avant même que je te demande de faire quelque chose, avant même que tu ne rentres dans l'essentiel de ce que je te demande de faire, écoute, réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Nous allons nous attarder sur ce verset, nous allons l'étudier. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus. Première recommandation. Dans cette phrase, le terme « réjouis-toi » est un ordre que l'on donne, dont je me dois d'obéir. Mais si je garde ma propre compréhension du mot « réjouir », je vais dire, ah, je suis contente, oh là là, vraiment, ah là là, Seigneur me dit de me réjouir. Mais je ne suis pas sûre que ce soit seulement ça. Je sais que ça a trait à la joie. Mais allons chercher plus loin et comprendre de quelle façon l'Éternel veut qu'on se réjouisse. Ce que ça signifie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que le mot stérile, toi qui n'enfantes plus, ça se comprend. C'est une situation dans laquelle je suis. Le Seigneur m'a répondu, le Seigneur m'a dit, élargis l'espace de ta tente. Parce que depuis plusieurs années, je souffre des douleurs d'enfantement. Je lui crie ma stérilité spirituelle. Je lui crie mon désir de porter du fruit. Je lui crie mon désir d'enfanter de ses œuvres, de ses missions. Donc, il a vu mon cri et il me répond. Élargis l'espace de ta tente. Mais avant ça, stérile, réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi, nous allons l'expliquer. Le dictionnaire français, littéralement en français, « réjouis-toi », ça évoque une manifestation de joie intense. C'est comme ça que c'est expliqué. La réjouissance est une manifestation de joie intense. Oui, mais ça m'apporte rien de plus profond. Manifestation de joie intense. Déjà, rien que manifestation de joie intense, il faut que je comprenne vraiment le véritable sens du mot « joie ». Parce que souvent, on te dit « ah, mais pourquoi tu n'es pas en joie ?» et tu fais un sourire bizarre là, et puis tu arrêtes. Mais ça, ce n'est pas la joie. Donc, je me sais bien que je ne peux pas rester sur l'expression superficielle ni de joie, ni de réjouissance. Mais quand on va chercher le sens strong du mot « réjouis-toi », qui dans Ésaïe 54 est un mot qui a été écrit en hébreu, c'est un mot qui signifie, on le traduit par « vaincre », « triompher ». Oh, « réjouis-toi », ça veut dire « vaincre », « triompher ». « Vain », « triomphe ». Pousser des cris rétentissant de victoire, de triomphe. Montrer que l'on est gagnant, qu'on est vainqueur. La réjouissance, moi je comprends, que cela augure que l'immense joie que tu dois exprimer, que Père t'ordonne de manifester, fait suite à une brillante victoire qui est déjà établie dans le spirituel et qui doit devenir palpable, visible, qui doit être manifestée. Dans la réjouissance, quand l'Éternel dit « réjouis-toi », c'est en fait soit dans un état d'esprit, soit dans un état d'esprit de vainqueur. C'est l'état d'esprit avec lequel
tu dois aborder le parcours que je suis en train de te faire prendre. C'est l'état d'esprit avec lequel tu dois affronter les événements et les épreuves auxquelles tu seras confronté. Sois déjà vainqueur dans ta tête. Garde cet état d'esprit-là. Amen. Moi, je le comprends comme ça. Et il poursuit. Et il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Je dis, waouh. Fais éclater, allégresse, joie. Et je repars pour regarder. Et je dis, allégresse. Allégresse, on va dire, c'est un état de joie intense. Bon, ça n'avance pas non plus. Mais quand je vais regarder encore la signification hébraïque du mot, rima, ça veut dire, on définit l'allégresse comme étant un cri retentissant, mais un cri de supplication, un cri de proclamation, un cri de louange à l'Éternel pour ses bienfaits, un cri de supplication, un cri de proclamation, un cri de louange. Donc tu dois émettre ce cri dans un esprit de triomphe et de gloire. Mais ce qui m'a surpris dans l'allégresse, c'est qu'on insiste pour que ce soit supplication ou louange à l'Éternel. Donc, l'état d'esprit dans lequel le Seigneur veut que je pense à la victoire, c'est qu'il me fait comprendre que ça doit s'appuyer sur la supplication et la louange, sur les proclamations. Ce n'est pas seulement un état de danse, mais que ça doit intégrer la supplication et la louange. Le mot « joie » prend toute autre signification. On peut penser que la joie, généralement, il y a des rires, on rit, quand tu ris, tu danses, tu sautes, machin, elle est en joie. Moi, je pensais ça aussi, de toute façon. C'est ce que, culturellement, nous voyons. C'est sans doute même les signes extérieurs de la manifestation de la joie. Mais elle part d'où, ce signe extérieur de la manifestation de la joie? Quand on regarde, on définit le mot « joie » en hébreu comme étant le cri qu'émet l'étalon. C'est un hennissement. Un étalon, c'est un cheval, mais pas n'importe lequel des chevaux. Un étalon, on le définit comme un cheval entier, c'est-à-dire un cheval qu'on n'a pas castré, un cheval qui est dans toute sa nature. C'est un reproducteur, c'est-à-dire un cheval qui est défini, destiné pour ensemencer, pour garantir la multiplication de la race. Ça, c'est l'étalon. Parce qu'il y a d'autres chevaux qui sont soit des juments, soit des chevaux castrés pour que leur chair serve de viande, etc. L'étalon, lui, il est entier, il est puissant. Et l'étalon, il est élevé en liberté pour développer en lui son instinct grégaire, sa vivacité. On définit l'étalon aussi comme un excellent athlète. Ce sont des compétiteurs, ce sont des chevaux de bataille. Et on me dit que la joie, le cri de joie, c'est le cri qu'émet l'étalon. Je repars dans l'étalon et ça m'a fait penser, quand je vais regarder le hennissement du cheval, je dis, le cheval n'émet pas un hennissement n'importe quand. Ce n'est pas son cri courant, non. Il hennit dans des moments spécifiques. Et quand il hennit, il est dans une position, que moi j'ai appelée la position de triomphe. Quand l'étalon est en train de hennir, il se lève sur ses deux pattes arrière. Il se tient droit, debout sur ses deux pattes arrière. Et il a ses deux pattes avant dans une position d'attaque. J'ai envie d'attirer l'attention de ceux qui m'écoutent sur le logo de la voiture Ferrari. C'est son logo, c'est un étalon bien dressé pour donner un peu l'image. Si les gens qui s'intéressent un peu à l'équestre et ont déjà vu un cheval que l'on énerve ou qu'un cheval qui hennit, ils voient qu'il se lève, il est dressé sur ses pattes arrière. Et un étalon, vraiment, quand il est en train de nier, surtout quand il est en train de nier de plaisir et pas de peur ou pas d'agression, il se lève vraiment tout droit sur ses pattes arrière et il a cette position de triomphe, cette position de vainqueur. Lorsque dans les compétitions équestres, pour ceux qui regardent un peu la télé et tout, ceux qui font du saut d'obstacle avec les chevaux, quand ils font le tour, les champions, les gagnants, quand ils font le tour de leur, du parcours et qu'ils s'en faute, etc., quand ils finissent, généralement, le cavalier qui est dessus finit sur un hennissement parce que c'est une position de triomphe. Il vient de remporter cette course. Et vous savez que dans les sports équestres, généralement, on congratule plus le cheval que le cavalier. Le cavalier n'est que l'accompagnateur du cheval. Donc, c'est une position de triomphe. Moi, quand j'ai vu cette comparaison du cri de joie que le Seigneur nous demande d'avoir dans ce qu'il appelle la réjouissance, dans ce qu'il dit de faire éclater notre joie et l'allégresse, quand ça a été comparé à l'étalon, je me suis dit, oh, c'est vrai que notre Seigneur Jésus nous dit dans la Bible, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, la nature doit nous enseigner. Il a pris des exemples sur plein de choses pour pouvoir nous enseigner ce qu'était le royaume. La fourmi, l'aigle, le lion, la biche. Aujourd'hui, moi je découvre le cheval. Et je dis aujourd'hui, le cheval va nous enseigner. Alléluia. Le hennissement, c'est-à-dire le cri de joie là, dont on parle, le hennissement, c'est un moyen d'expression. Quand le cheval fait comme ça, il exprime ses émotions. C'est un moyen d'information. C'est un moyen d'avertissement. C'est une expression de... une démonstration de suprématie. Donc je reviens maintenant et je comprends pourquoi réjouissance voulait dire vaincre et triompher. Se réjouir, c'est vaincre et triompher. Effectivement, si le mot joie en lui-même est déjà une expression, un cri de suprématie, alléluia. Le Seigneur nous demande de manifester de la joie. Et quand on regarde prendre, on définit donc le mot joie sur deux éléments. C'est un cri qu'émet l'étalon, comme nous l'avons expliqué. Mais ça se définit aussi que manifester de la joie, c'est resplendir. Quand on définit joie par le terme resplendir, je dis waouh. Faire émettre un cri de joie, c'est faire resplendir quelque chose. Et le Larousse nous définit resplendir comme étant l'action de renvoyer la lumière, de s'épanouir. Renvoyer la lumière, le fait de s'illuminer sous l'effet d'un sentiment agréable, de s'illuminer. Quand tu manifestes de la joie, tu t'illumines toi-même. C'est ce sentiment qui t'anime, tu t'illumines. Donc cette notion de lumière qui est rattachée à la notion du cri de joie, de la manifestation de la joie, attire mon attention un peu plus profondément. Donc manifester de la joie rend resplendissant. La véritable joie nous rend resplendissants, nous permet de renvoyer la lumière. Et j'ai dit, wow. Dans les Écritures nous disent que notre Seigneur Jésus, c'est la lumière du monde. Notre Seigneur Jésus, c'est la lumière. Et par son sacrifice à la croix, et par ce qu'il nous a mis en dépôt, il a fait de nous la lumière du monde. Il nous le dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez illuminer le monde. Et d'ici, je frappe celui qui me reçoit, je vais en lui. Lui qui est la lumière, il est en nous. Et il a fait son dépôt de lumière en nous. Et nous devons illuminer le monde. Mais ce n'est pas toujours le cas, mes frères et sœurs, nous le savons. Nous savons que ce n'est pas automatiquement, quand on est enfant de Dieu, qu'on est une lumière. Parfois, on cherche la lumière là. Tu es au milieu des gens, on ne voit aucune rayonnance. Nous ne nous masquons pas. Si. Parfois, on dit, waouh, comment je vais faire même pour... Et si on nous parle de lumière? Et par ce processus de la joie, ça m'a permis de comprendre quelque chose de profond. Je ne dis pas, la lumière du monde en nous et ces explications de comprendre le véritable sens des mots m'amènent à comprendre en fait que Jésus en nous a mis un dépôt de lumière et que c'est la joie, la manifestation, l'expression de la joie, de la véritable joie qui va déclencher, qui va provoquer ce renvoi de lumière au travers de nous pour illuminer le monde, pour illuminer ce qui sont autour de nous, pour éclairer. Et du coup, j'ai compris, en réalité, pourquoi l'Éternel dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Fais éclater. Pourquoi pas seulement soit en joie, soit en allégresse, ma fille, car je vais te faire du bien. Non, fais éclater. Pourquoi faire éclater? Je vais regarder ce que ça signifie, l'ordre qu'on est en train de me donner. Et je vois que faire éclater... Quand même nous-mêmes, quand nous sommes là, on dit « Oh, le petit, il a éclaté son ballon. Ça veut dire qu'il y a une paroi qui protégeait, qui faisait que cette chose soit un ballon qui a rompu, qui s'est rompu. Et comme ça s'est rompu, il n'y a plus de ballon. Comme ça s'est rompu, ce qui faisait le ballon, c'est-à-dire l'air qui était dans cette membrane, s'est dissipé et il n'y a plus de ballon. Donc éclater, c'est rompre. Moi, j'ai compris que l'Éternel, que pour pouvoir atteindre ce niveau, pour que la joie et l'allégresse se manifestent, il faut qu'une barrière soit rompue. Il faut qu'une membrane soit détruite. Une résistance doit être brisée. Et ça nous ramène encore à la position de l'étalon. Parce que quand j'étudiais les caractéristiques de l'étalon, j'ai été informée de quelque chose de particulier. On dit, l'étalon, contrairement aux juments et aux castrés, que les juments et les castrés sont généralement gardés dans un enclos. Ils sont faciles à manipuler. On les garde dans un enclos. Même pour ce qu'ils ont à faire, on les garde dans un enclos. Mais l'étalon, on ne peut pas le garder dans un enclos. Lui, il évolue en plein air. Lui, il évolue dans la liberté, il doit aller où il veut. Mais quand on met l'étalon dans un encrin, dans un enclos, dans une stalle, comme on l'appelle, il est nerveux, il hennit, il pousse des cris et il brise la barrière pour sortir, pour bénéficier des grands airs, pour s'en aller, pour parcourir des kilomètres. Il y revient toujours, mais il a besoin des grands airs. J'ai dit, waouh, c'est comme ça que la joie a besoin de fonctionner. La joie est comprimée, parce que n'oublions pas que c'est un dépôt de l'esprit. Il est comprimé quelque part, et il doit pouvoir briser les barrières pour pouvoir rayonner. Et de ce fait, pousser la lumière qui est en nous, à l'extérieur. J'ai dit, oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Et pour cet éclairage. Parfois même, nous sommes entre nous, on dit, oh ma soeur, pourquoi tu es triste comme ça? Oh ma soeur, pourquoi tu gardes un visage enfermé? Ah, ça va, non, c'est ma nature, c'est comme ça que moi je suis. Ce n'est pas, ouh, ma soeur, mes frères, refuse ça, refuse cet état-là, refuse cet état. Fais éclater ton allégresse et ta joie. C'est une recommandation de l'Éternel. J'ai compris avec ça, en fait, que l'Éternel nous donne ses recommandations au verset 1 et que ça conditionne en fait tout ce qui va suivre. Pourquoi est-ce qu'il veut donner une instruction en fait et il commence par une recommandation? Ah, c'est parce que c'est une clé importante pour triompher. Une clé importante pour saisir et posséder ce qu'il est en train de libérer, ce sur quoi tu vas travailler. Il m'a fait comprendre quelque chose. Je vais prendre une illustration. C'est quand tu te reçois un grand cadeau, parce que nous avons lu Ésaïe 54, les 17 versets. Mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas beau? Est-ce que ce n'est pas un précieux cadeau? Un bel héritage? Waouh! Tout ce qu'il a dit là. Mais c'est comme si tu recevais un cadeau qui est en fait un bon breuvage, un délicieux breuvage. C'est-à-dire que tu allais faire du sport où il fait chaud à 40 degrés, tu as soif, tu rentres à la maison et tu veux boire vraiment quelque chose de merveilleux. Quelqu'un vient et il t'offre comme ça une bouteille. Bien fraîche, avec un bon breuvage, délicieux, vitaminé dedans. C'est fermé. Mon frère, ma soeur, chaque fermeture a un mécanisme particulier. Mais pour toi, pour avoir accès à ce breuvage délicieux, tu dois ôter le bouchon pour pouvoir boire. Tu dois ôter le bouchon pour pouvoir bénéficier, vraiment, consommer le breuvage qui est à l'intérieur. Qui est à toi? La bouteille est à toi. Dieu nous a dit, il a déjà libéré dans le spirituel. Mais il doit être manifeste. Tu dois ouvrir. Vraiment, c'est à toi maintenant de regarder la bouteille, de discerner le mécanisme qui ferme la bouteille, de sélectionner la bonne clé pour pouvoir vaincre ce bouchon et avoir accès au breuvage qui est dedans. Si la bouteille est fermée par un bouchon de liège, tu dois devoir trouver un bon tire-bouchon pour en venir à bout. Si la bouteille est fermée par une capsule, tu vas trouver un bon décapsuleur. Si tes dents sont solides, soit tu utilises ça, mais tu dois trouver un moyen qui décapsule. Si le bouchon est un bouchon à vis, tu dois devoir dévisser. Souvent, on a les mains qui glissent. Tu dois devoir chercher un chiffon, essuyer, bien essuyer le bouchon à vis, tenir même avec le chiffon avant de vaincre la force contraire que tu opposes pour pouvoir ouvrir le bouchon, pour libérer ça. Ça peut être de multiples, si c'est comme un bouchon de champagne qui te ferme une bouteille glacée de pommerie, pas d'alcool, de
de boissons, de vignes mousseuses comme ça que l'on donne pour les enfants, que l'on ferme, tu dois devoir enlever la structure métallique qui enserre le bouchon, la capsule de la bouteille de champagne, et doucement faire un petit jeu pour pouvoir, pouf, déboucher. Il y a une action de force concrète qu'il faut exercer. Il y a une clé spécifique qui ferme ton bouchon. Et là, j'ai compris que la recommandation du verset 1, « Réjouis-toi, stérile, fais éclater ton allégresse et ta joie », était la clé. Manifester la joie spirituelle véritablement est la clé indispensable pour parvenir au résultat. C'est le stade déclencheur qui va te garantir le triomphe, la manifestation de ta grâce et ta bénédiction, qui va nous conduire dans l'applicabilité de l'élargissement de la tente, de tout ce qui va suivre. Oh Seigneur, wow. Quand j'ai compris ça, j'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, oh Seigneur, Saint-Esprit, j'ai compris, mais je sens encore comment y arriver, comment je vais y arriver, Saint-Esprit, instruis-moi, parce que je désire faire ces choses, je désire obéir à la recommandation de l'Éternel. Je m'y prends comment, je fais comment. Je désirais sincèrement comprendre cela, je désirais sincèrement être enseigné là-dessus, être éclairé là-dessus. L'Éternel nous dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche sincèrement. Et je crois que ça a été le cas, ce que l'Esprit m'a enseigné donc, sur le comment, parce que j'ai sincèrement voulu savoir, sincèrement interroger, sincèrement interpeller l'Esprit, sincèrement fouiller pour pouvoir être éclairé, être enseigné. Et le contenu de cet enseignement sera l'objet du message numéro 3. Donc, mes frères, mes sœurs, nous allons arrêter pour aujourd'hui à ce niveau. Mais nous reviendrons très vite. Je vous conseille de prendre le message numéro 3 pour continuer cet enseignement. Père éternel, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, mon Seigneur Jésus et mon Maître. Merci pour votre amour. Merci pour vos bienfaits. Merci pour la sélection. Merci. Oh, pour votre amour pour moi. Merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit. Je vous rends de nombreuses actions de grâce. Mes bien-aimés, demeurez dans la paix du Christ. À bientôt. Shalom.